Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Les enjeux internationaux. Lundi, les électeurs togolais étaient appelés aux urnes pour un double scrutin à la fois législatif et régional. Peu de doute sur le résultat. Le président Gnassi Nbé devrait conserver le pouvoir à la suite d'une réforme constitutionnelle votée il y a quelques semaines à peine. Une transformation du régime présidentiel en régime parlementaire dénoncée comme manœuvre politique par l'opposition. Les résultats devraient arriver dans les prochains jours. Comment appréhender ce scrutin sur fond de fortes contestations? Bonjour Anna Sylvestre-Trainer.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Vous êtes journaliste, chef du service Afrique au Monde. Il faut tout d'abord commencer par nous présenter qui est le président Gnassi Nbé et depuis quand lui et sa famille ont le pouvoir au Togo.
Alors, Faure Gnassi Nbé, il est au pouvoir, lui, depuis 2005 et il a succédé à son père, le général Eyadema Gnassi Nbé, qui lui-même était au pouvoir depuis 1967. On parle aujourd'hui au Togo, et on va en y revenir sans doute, d'une forme de tour de passe-passe constitutionnel. Et il est intéressant, dans ce cadre-là, de se rendre compte que depuis le début finalement des Gnassi Nbé au pouvoir au Togo, on parle d'arrangement avec les textes. Le père Gnassi Nbé Eyadema, le général Eyadema, est arrivé au pouvoir en 1967 par un coup d'État. Et puis son fils, je vous raconterai l'histoire si ça vous intéresse, si ça vous amuse, est arrivé lui-même au pouvoir en 2005 alors qu'il ne devait pas être le successeur de son père, ce devait être le président de l'Assemblée nationale qui était coincé au Bénin. Et puis alors dans la nuit,
l'histoire,
c'est que donc en février, dans son avion présidentiel, le général décède, voilà, en plein vol, il est évacué du Togo, il décède, et alors c'est un peu la panique. Dans cet avion, il y a deux de ses fils, Faure et Pacha.
Il décède naturellement,
il est vieux, il est malade, il meurt, mais évidemment, on n'aime pas tellement les vides dans ces pays-là, et donc l'avion revient au Togo, se pose comme ça dans le nord du Togo de façon la plus discrète possible. On met le corps d'un côté et puis Faure revient dans la capitale Lomé. Et Faure Gnassi Nbé, donc, il ne devait pas être le successeur. Lui, il était ministre à ce moment-là et les textes disaient que ça devait être le président de l'Assemblée nationale. Il est, lui, au Bénin. Les frontières du pays sont immédiatement fermées. Hein, c'est ce qui se passe dans ces cas-là, dans des cas de grands événements de cette nature-là. Et dans la nuit, alors le conseiller juridique du régime qui est, tenez-vous bien, un Français, Claude Debache, qui avait été conseiller de Valéry Giscard d'Estaing et qui était là le conseiller juridique de cette dynastie. Voilà, dans la nuit, hop, il bouge les textes. Les généraux disent, eh ben non, finalement, ça sera Faure Gnassi Nbé. Devant l'Assemblée nationale, on dit, ah, le ministre, finalement, devient député. Le député devient président de l'Assemblée nationale. Et voilà, tout est bien qui finit bien pour la dynastie, en tout cas.
Un petit habillage constitutionnel.
Un léger habillage constitutionnel. Donc finalement, ce pouvoir de Faure Gnassi Nbé, depuis l'origine, depuis 19 ans, il tient à une forme de tripatouillage et semble-t-il, c'est ce qui est en train de se produire à nouveau aujourd'hui.
Et alors, c'est devenu une dynastie.
C'est tout à fait devenu une dynastie, père, fils. Bon, et puis, Faure Gnassi Nbé, aujourd'hui, il est relativement jeune, hein, donc il peut se maintenir au pouvoir s'il le souhaite encore un petit moment.
Et alors, quels sont les liens de cette dynastie, puisqu'il faut l'appeler ainsi, avec l'élite économique, avec les militaires au Togo?
Alors le Togo est, comme on a l'habitude de le dire, même si je déteste ça, est un petit pays d'Afrique de l'Ouest. Mais c'est vrai que c'est un petit pays là qui est maritime. Alors c'est un pays qui Faure Gnassi Nbé l'a effectivement développé de façon assez importante depuis son arrivée au pouvoir. Son port Lomé notamment est un port aujourd'hui absolument majeur dans cette région de l'Afrique et du monde. Et évidemment, cela profite à l'élite du pays. C'est un pouvoir aussi qui tient beaucoup à celui des généraux. Hein. Je vous ai dit que son père était général. C'était à l'origine un soldat de l'armée française, puis un général de sa propre armée, le Togo. Faure lui-même n'est pas un militaire, mais son pouvoir tient au pouvoir des militaires. Cela dit, il se trouve que dans cette réforme constitutionnelle qui a été passée par deux fois devant l'Assemblée. C'est-à-dire une première fois en mars et puis ils l'ont fait repasser trois semaines plus tard. Ce qui est un peu étrange, enfin ce qui est sans doute dû à la contestation. On se demande si c'est pas une façon aussi pour lui d'essayer de se détacher des militaires, c'est-à-dire de tenir son pouvoir de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire de la classe politique, plus que des militaires en tant que tels. En tout cas, c'est ce que nous, on regarde de près.
Et alors, dans ces conditions, comment imaginer la suite pour le Togo? Donc, une réforme constitutionnelle qui a été votée, bien entendu, en catimini, une nouvelle...
De nuit, comme toujours dans ces cas-là.
Voilà, une nouvelle constitution. Est-ce que dans le pays, il y a des opposants à ce pouvoir dynastique qui ne peut plus être considéré comme étant démocratique, Anna Silvestre-Renner?
Oui, je crois qu'il ne l'a jamais été considéré comme démocratique. Alors, il y a des opposants au Togo, il y a des opposants importants. En ce moment, on peut par exemple citer Jean-Pierre Fabre. Vous le disiez, le résultat de ces élections qui est attendu d'ici à la fin de la semaine, hein, on ne l'a pas encore, c'est pour ça qu'on ne vous le donne pas. Le résultat de ces élections, a priori, sera sans surprise. Le parti qui devrait être majoritaire à la future assemblée, qui s'appelle Unir, sera sans doute le président de Fania Singbe, ce qui lui permettra en tant que chef de ce parti d'être immédiatement président du conseil et donc d'être immédiatement le chef de ce pays grâce à cette réforme. Ça lui permettra, sans limite de mandat et sans débat à l'assemblée, de se maintenir au pouvoir. Cela dit, malgré ces résultats attendu, il y a une forte contestation. Alors, on est dans un contexte de répression. Depuis 2005, déjà, lorsqu'il arrive au pouvoir, Fania Singbe, il y a une forte contestation. On parle de 500 à 1000 morts à l'époque. Et à chaque fois qu'il a été réélu, avec des tripatouillages, avec de la répression très forte, il y a eu des morts, des manifestations. Là, on en a très peu vu, puisque depuis 2022 au Togo, les manifestations sont interdites. Il y a eu des appels à manifester qui ont été immédiatement réprimés par le régime. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de parti d'opposition au Togo. Il existe, mais cette opposition a du mal à s'unir, donc elle a du mal à peser réellement. Ce qu'il faut regarder dans ce contexte quand même fébrile, hein, en ce moment dans ce pays, c'est tout le contexte régional.
On est justement dans une Afrique de l'Ouest. Quel est le contexte en Afrique de l'Ouest avec ce pays que vous ne vouliez pas qualifier de petit pays, Anna Silvestre-Renner?
Eh bien, le contexte en Afrique de l'Ouest, il est assez tendu, assez compliqué en ce moment, et on fait face à ce que un certain nombre d'experts, d'observateurs considèrent comme étant une réelle crise démocratique. On a une Afrique de l'Ouest qui, jusqu'à il y a 3 ans, disons, était un ensemble, hein, j'allais le comparer un peu à l'Union Européenne, qui fonctionnait plutôt correctement, qui là est complètement scindé en deux, entre des militaires putschistes au pouvoir dans un certain nombre de pays, Mali, Niger, Burkina Faso, j'imagine que vous en avez déjà parlé à cette antenne, ou bien Guinée, et d'autres pays. Ces deux blocs se font face de façon assez dur, voilà, voire on se demande parfois si ça ne peut pas dégénérer. Mais dans ces deux blocs, il y a crise démocratique. Il y a d'un côté des putschistes et de l'autre des présidents qui se maintiennent, à l'image de Fania Singbe, mais à l'image aussi d'un Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, qui sans doute l'année prochaine va briguer un quatrième mandat après avoir lui-même modifié la constitution. Voilà, le seul pays qui se dégage dans cet univers-là, c'est le Sénégal. Le Sénégal qui, au moment même, le jour même, où de nuit, le Togo modifiait sa constitution, lui, mettait à sa tête, finalement, 100 heures, même s'il y avait des incertitudes, mais 100 heures, un opposant, en l'occurrence, Bassirou Diomaye Faye.
Donc, ce qui veut dire que, finalement, le Togo est, hélas, une exception. C'est le seul pays d'Afrique de l'Ouest qui n'a jamais connu d'alternance.
C'est effectivement un pays qui n'a jamais connu d'alternance. Alors, je réfléchis sur le seul, mais effectivement, c'est le seul qui n'a jamais connu d'alternance et qui, aujourd'hui, dans ce contexte dynastique, joue un rôle assez particulier dans cette Afrique de l'Ouest, la coupée en deux que je vous décrivais, qui joue un rôle de médiateur entre les deux, qui ne choisit pas son camp, mais du coup, qui joue d'absolument tous les camps et de toutes les alliances aussi, bien au-delà de l'Afrique. Les camps que je vous décrivais sont aussi l'objet d'enjeux internationaux importants, notamment entre le camp occidental et la Russie, dans une sorte de guerre froide par procuration. Oui. Le Togo joue absolument sur tous les tableaux. Ça ne veut pas dire que Fania Singbe ne doit pas se méfier. On parlait d'une opposition divisée, qui avait du mal à peser pour cette raison-là et à cause également de la répression. On peut penser à une autre dynastie, hein, bien plus loin, les comparaisons valent ce qu'elles valent. Mais au Gabon, en août dernier, fin août dernier, Ali Bongo, qui était le fils d'Omar Bongo, a été renversé dans la nuit par un groupe de militaires. Certes, c'était une révolution de palais puisqu'elle était renversée par un de ses cousins, mais il a été renversé. Donc, il faut faire attention à ces contextes extrêmement fébriles.
Bon, mais ça veut quand même dire que le fils succédant au père, il y aura peu d'évolution à cet égard.
Pour l'instant, il n'y a pas d'évolution, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas bouger. On a vu que, en ce moment, effectivement, les putschs militaires étaient quand même, comment dire, à la mode en ce moment dans un certain nombre de pays d'Afrique francophone, et on a quand même observé une certaine fébrilité là du pouvoir togolais. On n'a pas l'habitude de les voir fébriles et de les voir repasser des textes à l'Assemblée comme ils l'ont fait. Donc tout le monde est extrêmement vigilant sur ce qu'il est en train de se passer en ce moment au Togo.
Merci beaucoup Anna Sylvestre Trainer. Je rappelle que vous êtes chef du service Afrique au journal Le Monde. Dans quelques secondes, et ben on sera par exemple avec Alexandra Delbo pour Avec Science, elle va nous parler de requins, peut-être de soupe aux requins, on ne sait pas, non, ce ne doit pas être ça.